Bonjour Rémi Brague.
Bonjour.
Merci de me recevoir à l'Institut de France. Nous parlons de Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne paru dans la collection L'Esprit de la Cité aux éditions Gallimard. Le projet moderne, dites-vous, est l'émancipation de l'homme par rapport à Dieu et à la nature. Au lieu que ce soit l'homme qui doive recevoir sa norme d'une autorité extérieure, écrivez-vous, c'est lui qui détermine ce qui pourra revendiquer une autorité sur lui. Est-ce que nous assistons alors, par le projet moderne, à une nouvelle définition de l'homme ?
En un sens, oui. En un autre sens, non. L'homme n'a pas attendu quelques références à des principes extérieurs pour se définir soi-même. Simplement, au-delà de la définition, il y a ce que j'appellerais l'accrochage. Le point d'accrochage, si vous préférez, ou le point d'Archimède, si vous voulez une autre image. C'est-à-dire la référence qui lui donne, ou qui lui refuse éventuellement, une légitimité. Savoir que l'homme est un animal rationnel, enfin en tout cas un animal qui devrait l'être, qui a la possibilité de l'être, bon, nous le savons depuis quasiment le début, hein, que l'homme parle à la différence des animaux, qui ne peuvent qu'émettre des signaux, mais pas communiquer à proprement parler, et en tout cas pas forger de concepts abstraits. Ça, c'est une vérité vieille comme le monde. En revanche, savoir pourquoi il est bien qu'il y ait des hommes, et pourquoi l'homme doit chercher un bien qu'il ne possède pas d'emblée, eh bien, ce sont des questions pour lesquelles il faut avoir un point de référence extérieur. Alors, ces points de référence peuvent être, vous l'avez dit d'une manière très concise, soit de nature cosmologique, soit de nature théologique, lorsque vous avez parlé de la nature et de Dieu. Et c'est ce qui m'a d'ailleurs lancé dans le projet, non pas dans le projet moderne, mais le projet d'étudier le projet moderne, dans ce qui n'est finalement que la troisième partie, et par définition, et Dieu merci, dernière partie d'une trilogie, hein, les meilleures trilogies ont toujours trois parties, disait naguère la publicité pour un film. Cette troisième et donc dernière partie se comprend comme le prolongement et l'achèvement de deux volumes antérieurs. Le premier qui portait justement sur l'étude de la façon dont l'homme a considéré que son point de référence et l'encre, avec un A, l'encre de sa légitimité était la nature. Et puis il y est venu ensuite un second volume examinant la manière dont cette source de légitimité était de nature théologique. Le premier volume s'appelait « La sagesse du monde », le deuxième, « La loi de Dieu », et le troisième, « Le règne de l'homme ». Il y a évidemment un parallélisme voulu dans les titres, mais j'espère que ce parallélisme n'est pas seulement de nature rhétorique, mais que ça correspond à un contenu.
Et donc « Le règne de l'homme », avec les temps modernes, la question de l'homme parmi les créatures se pose à nouveau frais. Vous écrivez que les corps célestes des philosophes grecs et les anges de la Bible disparaissent de l'horizon de la conscience occidentale. Et l'homme occupe la première place dans l'échelle des créateurs. Enfin, des créatures, pardon, dans l'échelle des créatures. Ça, c'est un changement radical.
Oui, et dont on s'est finalement assez peu rendu compte. Si j'avais le temps, les loisirs et la culture nécessaires, je crois que j'écrirai un livre sur l'effacement des anges, la manière dont l'homme s'est trouvé, si je puis dire, en tête de gondole, ou en tout cas en tête de file, sans avoir devant lui un autre être rationnel que lui-même. L'homme antique et médiéval aimait à se sentir, si je puis dire, pris en sandwich en dessous de lui. Les animaux qui sont sensibles, qui sont capables de percevoir les choses, qui ont des sens, mais qui n'ont pas de raison. Et puis, au-dessus de lui, les anges qui sont de pures intelligences, mais qui n'ont pas de corps, donc ils n'ont pas de sensibilité, ou s'ils ont corps et sensibilité, ce sont des réalités d'une nature tout à fait différente de la nôtre, des corps subtils, comme aimaient à les penser ou à les rêver les penseurs du Moyen-Âge et de la Renaissance. En ce qui nous concerne, nous autres hommes modernes, eh bien, nous sommes au premier rang. Nous n'avons pas, si je puis dire, de glacis, si vous voulez, qui nous protégerait du contact direct, soit avec Dieu, soit avec la nature. Nous sommes un petit peu en première ligne, nous sommes sur le front, si je puis dire. Enfin, nous avons même le front d'être sur le front, si je puis me permettre ce calembour peut-être exécrable.
Dans ce changement radical, Francis Bacon a une place particulière, vous lui accordez une place particulière. Il émet l'idée tout d'abord d'une domination de l'homme sur la nature. Vous écrivez que le but de la connaissance est désormais le pouvoir et non plus la contemplation. Et cette domination, c'est bien le règne de l'homme qui se fonde sur la science. C'est le titre de votre essai.
C'est aussi un titre que j'ai emprunté à Bacon lui-même, puisqu'il parle en latin « regnum hominis ». Bon, c'est, je ne vois pas comment on pourrait traduire autrement que le règne ou la domination ou la royauté de l'homme. Il importe quand même de voir que même si Bacon joue un rôle particulièrement important dans l'histoire que j'essaye de raconter, il ne représente quand même qu'une étape dans l'ascension de l'homme dans la manière dont il grimpe jusqu'à la marche la plus haute. Marche la plus haute qu'il n'atteint finalement qu'avec certains penseurs du XIXe siècle qui font de l'homme l'être suprême, reprenant la définition que les révolutionnaires français avaient empruntée à des gens comme Fénelon pour désigner Dieu. L'homme devient l'être suprême et il devient même, chez Auguste Comte, l'objet d'une religion. Enfin, l'humanité, plus exactement, plus que les hommes individuels, deviennent l'objet d'une religion. Bacon représente une étape importante, mais antérieure, c'est l'avant-dernière, si je puis dire, dans l'histoire de cette ascension, résistible ou non, je ne sais pas, de l'homme. Puisque avec Bacon, on voit apparaître le projet de dominer la nature, c'est-à-dire précisément le retournement de la relation que j'avais essayé de décrire dans mon premier livre. Au lieu que ce soit la nature qui donne la règle, qui donne à l'homme la règle de ce qu'il doit faire, ou qui, à tout le moins, garantisse la possibilité d'une coïncidence de ce qui est et de ce qui doit être, une coïncidence de l'être et du bien, puisqu'elle est réalisée dans le bel ordre des allures célestes. Au lieu que ce soit comme cela, eh bien c'est à l'inverse l'homme qui va devoir dicter à la nature, bien entendu à ce qui est à sa portée de la nature, il ne saurait commander les réalités astronomiques. Et l'homme va devoir dicter à la nature ce qu'elle sera priée d'être. Et bien entendu, ce qu'elle sera priée d'être, c'est le domaine d'action et d'accomplissement de l'homme lui-même. Cette idée de domination de la nature, donc cette idée de règne de l'homme, n'est pas beaucoup plus vieille que le XVIIe siècle. Avec donc Bacon, que vous avez nommé, avec notre Descartes, notre cher Descartes, notre vache nationale cartésienne, reprend d'ailleurs la formule de Bacon un petit peu en passant dans le discours de la méthode, lorsqu'il s'agit pour l'homme de devenir, je cite, « comme maître et possesseur de la nature », eh bien ce projet n'est guère plus ancien que le XVIIe siècle, puisque les sources qu'on lui cherche dans la Bible sont simplement inexistantes. La Genèse représente Dieu donnant l'ordre à l'homme de dominer les animaux, mais il est très intéressant, et ça c'est un chercheur américain qui l'a établi, est très intéressant de remarquer que ce verset n'a jamais été interprété comme légitimant la domination de l'homme sur le reste des animaux, avant justement la naissance au XVIIe siècle du projet moderne. Avant ce projet, aussi bien, ce verset, pardon, aussi bien chez les pères de l'Église, donc chez les chrétiens, que chez les rabbins, donc chez les juifs, était allégorisé. Dominer les animaux, cela voulait dire dominer les passions qui en vous sont représentées, sans doute bien injustement d'ailleurs, par des figures animales. Dominer les animaux, ça veut dire ne soyez pas, comme nous disons encore, sales comme des cochons, ne soyez pas, débauchés comme les lapins, ne soyez pas sournois comme les renards, etc., etc. Mais il n'y avait jamais de projet d'imposer sa volonté à la nature. Et c'est ça qui apparaît avec Bacon, qui est effectivement une charnière importante, une ligne de partage des eaux, j'aime bien cette image, dans l'histoire que je raconte, mais seulement une des lignes en question.
Je voudrais juste qu'on continue avec Bacon, avec une autre innovation de Bacon, qui paraît dans la Nouvelle Atlantide, en 1624. Bacon inaugura le genre littéraire de l'utopie scientifique, où la science est systématiquement mise au service de l'amélioration de la condition humaine. Oui. C'est nouveau aussi.
Alors ce qui est nouveau, ça n'est pas le genre de l'utopie en soi, puisque le mot lui-même est antérieur d'un petit peu moins d'un siècle, puisque c'est Thomas More, enfin Saint Thomas More, puisque l'Église catholique l'a porté sur ses autels comme martyr. C'est Thomas More qui a inventé le mot. À partir du grec, ça veut dire nulle part, n'est-ce pas? Un endroit qui n'existe pas. Mais l'idée de ce que nous appelons maintenant anachroniquement une utopie est beaucoup plus ancienne. L'idée d'un régime politique idéal réalisé dans une île lointaine, ça se trouve déjà dans la Grèce hellénistique. Mais alors, ce qui est vrai, c'est que là où il est question d'une utopie scientifique, c'est-à-dire de l'idée suivant laquelle c'est grâce à la science que l'on va pouvoir réaliser des conditions optimales de développement de l'homme, alors là, effectivement, c'est bien une invention de Bacon, pour laquelle, d'ailleurs, il opère une révolution intellectuelle tout à fait intéressante à l'intérieur de l'idée de magie. Jusqu'à présent, enfin avant lui, ce que l'on pensait de la magie, c'est qu'elle était efficace, mais mauvaise. Et mauvaise précisément parce qu'elle était efficace. On arrivait vraiment à se mettre en contact avec des puissances maléfiques. C'est pour cela qu'il fallait l'éviter. Bacon, lui, ne se soucie plus tellement de savoir si la magie est quelque chose de mauvais ou de bon, mais ce qui l'intéresse, c'est que ça ne marche pas. C'est une entreprise vaine, on perd son temps. Et il souhaite donc corriger le mot de magie, c'est une expression dont il se sert, en remplaçant cette magie inutile parce que inefficace, parce que nous appelons maintenant la technique, qui est effectivement une sorte de magie, mais une magie qui marche bien. Nous arrivons à nos fins. Et c'est très intéressant, si vous voulez, pour réfléchir sur la relation entre, disons, technique et morale, puisque pour Bacon, la morale, il n'est pas contre, si vous voulez, même si dans sa vie personnelle, il n'était pas extrêmement édifiant, il était quand même corrompu jusqu'à l'os, Enfin, je veux dire, il se faisait acheter, c'était pas quelqu'un de moralement très respectable, mais ça ne l'intéressait pas extraordinairement comme philosophe. Ce qui l'intéressait davantage, c'était eh bien, la puissance, hein, la capacité d'imposer au monde extérieur eh bien, les volontés humaines, les volontés de confort, les volontés d'amélioration, de prolongation de la vie, de maximisation du plaisir, et des choses de ce genre-là, dont nous vivons encore assez largement.
Sur ces bases, l'idée de progrès apparaît plus tard, elle apparaît au XVIIIe siècle, l'idée d'une liaison entre avancée scientifico-technique et amélioration de la situation de l'homme.
Oui, c'est bien là que se noue la question. Qu'il y ait des progrès dans la connaissance des réalités, qu'il y ait par exemple des progrès dans l'élégance des démonstrations mathématiques et dans la capacité d'écrire des modèles rendant compte des mouvements astronomiques, eh bien on s'en est aperçu dès la Grèce ancienne. Hein. On a un passage d'Aristote dans lequel il semble rêver d'un achèvement de la science. Enfin, on va bientôt tout savoir. Et si ça continue à ce rythme-là, on va bientôt tout savoir. Mais ce qui se met en place au XVIIIe siècle, non d'ailleurs sans beaucoup d'hésitation, hein, mais ce qui se met en place chez certains, en gros à partir de 1750, d'un discours resté célèbre de Turgot, et plus encore en 1793-14, chez Condorcet, c'est justement l'idée suivant laquelle, puisque l'homme connaît de mieux en mieux, peut décrire de plus en plus adéquatement la réalité physique, alors là c'est Newton qui est le héros de toute cette époque, puisque les connaissances augmentent, on va pouvoir appliquer des méthodes éventuellement analogues à l'organisation des sociétés humaines, et donc on va avoir des cités de plus en plus satisfaisantes. Et dans ce cadre, eh bien, l'homme va également progresser en vertu. Le rêve d'une progression en vertu qui est, chez les stoïciens, donc dès l'Antiquité grecque, le fait de l'individu, va devenir, eh bien, le rêve, le projet, en tout cas, de ceux qui auront pour charge de diriger la communauté humaine, enfin, la cité ou la société, comme on s'est mis à dire à un certain moment, vers des lendemains qui chanteront de manière de plus en plus harmonieuse. C'est là qu'est l'idée de progrès. Hein. Les connaissances humaines augmentent, personne ne le nie. Que notre contrôle de la nature augmente, même si l'expression est un peu pourrait être sujette à caution. Mettons que, disons, la technique est de plus en plus efficace, la science est de plus en plus profonde et précise, la technique est de plus en plus efficace. Quant à parler d'un progrès dans l'organisation des sociétés humaines et d'une augmentation du niveau de la moralité du genre humain, là, en ce qui me concerne, je suis plus réservé. Je ne suis évidemment pas le seul à faire remarquer que le XXe siècle a porté à la foi naïve en le progrès que nourrissait encore le XIXe siècle des coups dont on peut penser qu'ils sont mortels.
Ce projet moderne, ce sont des philosophes qui l'inventent avant tout. Est-ce qu'il y a aussi des écrivains? Vous prenez beaucoup d'exemples dans les romans, dans la poésie, c'est-à-dire dans la fiction. Est-ce que nous pouvons dire que la fiction a agi sur ce projet moderne, sur cette nouvelle conception de l'homme, ou est-ce que la fiction accompagne cette nouvelle conception en prenant acte?
Un petit peu les deux, et peut-être davantage Faut-il insister sur le côté justement d'anticipation de la fiction? Le terme d'ailleurs et le genre littéraire du roman d'anticipation et d'anticipation scientifique sont tous deux, aussi bien le terme que le vocabulaire que la réalité, des inventions du XVIIIe siècle tardif, et plus encore, alors du XIXe siècle. Bon, Jules Verne, bien entendu, bon, en France, est un exemple particulièrement parlant de cela. Alors effectivement, j'ai un petit peu quitté le premier rang des bibliothèques philosophiques pour me tourner également vers les écrits d'écrivains et de poètes, pas toujours de toute première qualité du reste et d'ailleurs, parfois d'une certaine célébrité. Enfin, Wells, H.G. Wells est assez connu, l'auteur du Bulwer Lytton l'est beaucoup moins, enfin en tout cas il l'est beaucoup plus pour Les derniers jours de Pompéi que pour le roman dont je parle d'ailleurs assez rapidement. Enfin bon, il me semble qu'il est intéressant de convoquer ce genre de texte parce que justement il ne s'agit pas seulement d'un projet au sens où l'on aurait pensé profondément et rigoureusement ce qu'il fallait faire, mais dans la mesure même où l'objet est futur, mais il s'agit de le rêver, ou en tout cas, disons, de l'imaginer. Enfin, laissons dans l'ombre la distinction entre rêve et cauchemar. Les deux sont des formes de l'imagination. Il est amusant d'ailleurs que l'on voit apparaître, un peu plus tard que les utopies positives, des utopies négatives, ce que certains ont appelé des dystopies, écrivant comment les choses vont empirer, on va vers la catastrophe. Flaubert a donné par avance raison à la phrase de Bernanos selon laquelle un optimiste serait un imbécile heureux et un pessimiste un imbécile triste, en répartissant les deux genres littéraires sur ces deux imbéciles, le terme est de lui, les deux imbéciles que sont Bouvard et Pécuchet, dans les projets pas rédigés d'une suite et d'une fin de son roman, du roman que la mort l'a empêché d'achever. Il confie à Bouvard une vision positive, une vision rose du futur, et à Pécuchet, en revanche, une vision grise, pessimiste, sombre, catastrophique, ou comme on voudra dire. Eh bien, nous vivons depuis lors pris entre les deux écueils. Nous sommes encore là-dedans. Nous n'avons pas encore franchi le passage entre Charybde et Scylla.
Ce projet moderne, vous en faites un échec. La question centrale de l'échec du projet moderne tient-il par ce paradoxe, l'homme comme sujet est investi de la charge suprême au moment même où l'on s'ingénie à ne voir en lui que le jouet de forces extérieures ou intérieures dont il ne dispose pas?
Écoutez, oui, votre formule me semble très juste.
C'est
la mienne. Bon,
alors, je vous cite.
Je me déclare insatisfait. Je me vote une motion de félicitations à l'unanimité, plus quelques voix. Ce que je veux dire, c'est que, d'une part, première remarque, mon sous-titre fait quand même preuve d'un certain culot, pour parler un peu grossièrement. Dire genèse et échec du projet moderne, et échec au singulier, pas les échecs au sens où un moteur a des ratés, mais continue quand même à tourner. Non, je pense que ça va à l'échec, dans la mesure où, justement, nous nous trouvons pris dans une sorte de dialectique, on confie tout à l'homme sans pouvoir dire pourquoi il est bon qu'il y ait des hommes. Si vous voulez, on pourrait formuler ça en appelant ça le paradoxe du bien. Nous sommes capables de produire des biens, et attention, je ne vais pas du tout entonner le refrain contre l'ignoble matérialisme contemporain. Ça, ça me dégoûte, ce genre d'argument, parce que la plupart du temps, ça vient de la bouche de gens bien nourris. Bon. Non, ce que je veux dire, c'est que nous sommes capables de produire des biens qui ne sont pas d'ailleurs purement, qui ne sont pas purement matériels, mais qui sont aussi des biens, disons, culturels ou des biens moraux. Par exemple, nous sommes capables de constituer des sociétés dans lesquelles la quantité de violence est quand même très minimale par rapport à ce qui se passait dans des sociétés antérieures et en Occident inférieure à ce qui se passe, hélas, dans d'autres régions du monde. Bon. Par ailleurs, nous pouvons produire de la culture, nous pouvons fabriquer, nous pouvons enregistrer et diffuser les grands chefs-d'œuvre de la musique classique, les grands chefs-d'œuvre de la littérature, en DVD pour les uns, en édition de poche pour les autres, même d'ailleurs on peut enregistrer des œuvres littéraires sur support sonore. Bon, je trouve que ce sont des biens. Je n'ai nullement envie de revenir en arrière. Je ne me fais pas d'illusions. Il y aura toujours un crétin pour me dire que je suis réactionnaire. Mais enfin bon, c'est à ça qu'on reconnaît les crétins. Bon. Donc, oublions cela. Non, ce que je dis, c'est que même si nous sommes capables de produire des biens, même de produire du bien, si je puis dire, nous sommes incapables de répondre à la question « Est-il bien qu'il existe des hommes ?» Et en particulier, c'est une question qui prend un aspect extraordinairement concret lorsque l'on prend conscience de ce fait absolument évident que l'espèce humaine n'existe que parce qu'elle se reproduit. Or, faire des enfants sans savoir, sans être sûr que l'existence est pour eux un bien, qu'elle sera un bien quoi qu'il arrive, eh bien ça demande un point d'ancrage. Et ça demande un point d'ancrage qui, à mon avis, c'est le titre d'un petit bouquin que j'ai fait il y a 4 ans, ces ancres se trouvent dans le ciel. C'est le titre de mon livre, hein, d'un de mes petits livres, Les ancres dans le ciel. Alors ce que j'ai essayé de faire dans le livre dont vous avez la gentillesse de me faire parler, alors, ce n'est pas du tout de procéder à une critique du projet moderne, mais c'est de montrer comment il se défait lui-même. Alors, c'est pour ça que je ne me place pas sur un balcon regardant la modernité défiler devant moi et lui crachant dessus. C'est pas du tout ça que j'essaye de faire. Non, je montre que le déploiement même de sa logique mène à l'impasse. Alors vous avez nommé très bien une impasse en question. Nous nous gargarisons de la dignité de l'homme, nous nous gargarisons des droits de l'homme, nous sommes incapables de savoir et de dire de manière convaincante pourquoi l'homme aurait une dignité et pourquoi il aurait des droits.
Est-ce que vous ajoutez dans cette même logique, Rémi Brague, que l'homme devient comme objet la seule cause à laquelle il vaille la peine de se dévouer, en même temps qu'il doute de posséder quelques valeurs.
Exactement, exactement.
Et on en arrive ainsi à un anthropocentrisme sans homme.
C'est cela, voilà. On a une sorte de centrisme, mais ce qu'il y a au centre, c'est un trou. Nous plaçons l'homme au centre, mais nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait quelqu'un au centre. Nous ne sommes pas sûrs qu'il y ait un pilote dans l'avion.
Merci beaucoup, Rémi.
Je vous en prie.